Vous écoutez RTL.
Just tea for two and two for tea.
Et tout de suite, dans la curiosité, on boit du thé et on raconte son histoire. Bonjour Arnaud Bachelin.
Bonjour. Bonjour,
bienvenue. Vous êtes expert en thé. Alors en France, on est plutôt thé ou café ?
Plutôt café.
Oui. C'est un peu comme les Beatles et les Rolling Stones, chacun sa chapelle, c'est ça ?
Exactement.
Et on ne peut pas saquer.
C'est un peu ça, et les uns des seins de les autres. Et puis, si l'on choisit le thé, on ne boira pas de café. Si on boit du café, on ne boira pas de thé.
Ah bon, on n'a pas le droit de partager,
certaines
de mélanger
personnes sont indécises.
Enfin, mélanger aussi, pas dans la même tasse.
C'est quelque chose de très français aussi d'être indécis. Donc certaines personnes vont commencer la journée avec du café et continuer avec du thé. Mais généralement, les vrais amateurs de thé vont boire que du thé ou que du café.
Bon, ben voilà. Ben écoutez, on va raconter maintenant l'histoire du thé. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le thé, c'est sur RTL, c'est dans la curiosité et c'est dans un instant.
Vous écoutez RTL.
It's hot. It's sweet. It's tea for two.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Picture fun for everyone. A joy for you is tea for two. For capturing and rapturing romance.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous nous écoutez sûrement, une tasse de thé à la main. Et même si c'est du café, l'histoire de cette boisson va vous passionner. Arnaud Bachelin, vous êtes expert en thé. Première question, pourquoi c'est le breuvage absolu et délicieux des Anglais, le thé ?
Alors, je ferai juste une petite correction. Je dirais que c'est le breuvage absolu des Britanniques.
Ça va au-delà de l'Angleterre,
puisque surtout que les deux régions les plus consommatrices de thé ne sont pas l'Angleterre, sont l'Irlande et l'Écosse. Et si aujourd'hui ils sont très friands de thé, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'un jour ils ont un peu trop aimé la bière.
Alors attendez,
allons bon.
Quel rapport entre la bière et le thé ?
C'est qu'à un moment, on se trouvait que les Britanniques en fait, buvaient davantage de bière et qu'on a trouvé le moyen de remplacer la boisson par le thé. Et c'est une manière de rendre les choses un peu plus saines pour tout le monde.
C'est un breuvage onéreux, précieux pour les Anglais. Au début, tout le monde ne peut pas, ou les Britanniques ne peuvent pas se le payer.
Oui, exactement. De la même manière que toutes les denrées exotiques qui arrivent au XVIIIe siècle, puisqu'on est au XVIIIe siècle, au moment où la boisson va commencer à se démocratiser. Vous êtes sur des boissons qui traversent les mers et qui sont forcément très, très onéreuses. Pour vous donner un ordre d'idée, ça va être l'équivalent de certains caviar aujourd'hui. On est véritablement sur ce type de produit au XVIIIe siècle, au moment où il apparaît en Angleterre.
Et forcément, ça passe par l'aristocratie ou par les couches les plus hautes de la société. Vous publiez L'heure de vérité aux éditions Baker Street. Vous y racontez que c'est grâce à une femme, Catherine de Bragance, que l'on doit sa première arrivée en Angleterre ou sa première diffusion, comment on pourrait dire ça ?
Ou son infusion ?
On est en 1661, donc c'est avant ce que vous nous décriviez.
Exactement. Il y a un tout petit événement qui va changer tout et Catherine de Bragance va être au cœur de cet événement puisque ça va être son mariage. Catherine de Bragance a une petite histoire assez particulière puisqu'on a essayé de la marier à tous les rois d'Europe avant que finalement la chose se fasse avec Charles II d'Angleterre. On a même un moment voulu la marier à Louis XIV, notre cher roi français. Et elle arrivera donc en 1661 en Angleterre.
Avec du thé dans ses bagages ?
Avec du thé dans sa dot, c'est-à-dire sa dot comprenait du thé et des porcelaines. Et c'est grâce à elle en fait que toute l'aristocratie anglaise et toute la cour royale d'Angleterre, a commencé à consommer du thé.
C'est important, l'association thé-porcelaine, dans ce que vous nous racontez, c'est quoi ? C'est le contenant idéal ?
Énormément. Si aujourd'hui, je vous propose de boire un verre de vin dans un verre en plastique,
c'est moins bien.
C'est beaucoup moins bien. C'est la même chose avec le thé, on va tendance à préférer la porcelaine et des porcelaines fines, puisqu'à l'époque, on apporte des porcelaines fines de Chine.
Arnaud Bachelin, on va continuer à faire des petits bonds dans l'histoire comme ça, des bonds en arrière. D'où vient le thé ? Qui va le découvrir pour la toute première fois et où ?
Alors ça, c'est la question. On sait que le thé apparaît dans une région qui aujourd'hui est plus ou moins en Chine, dans le Yunnan, et on sait que ça arrive entre 3000 et 6000 ans avant notre ère. 3000 et 6000 ans, c'est déjà un bond énorme.
Et c'est pas très précis.
C'est pas très, très précis, je vous l'accorde. Mais c'est la difficulté quand on travaille sur des archives où il y a très peu de sources écrites.
Qui va le rapporter en Europe ?
Les premiers qui vont le rapporter vont être les Portugais et très vite, ils vont être imités par les Hollandais qui vont prendre le dessus sur le commerce du thé à cette époque-là.
Est-ce qu'on sait sous quelle forme il apparaît, ce thé, il arrive en Europe ? Est-ce que c'est déjà des petites feuilles séchées comme on connaît aujourd'hui ?
Oui, il faut juste imaginer qu'on n'a pas forcément le souci de la feuille entière à l'époque. Et aussi, il faut s'imaginer que la feuille a fait pas moins de 40 jours de bateau au minimum. Donc, vous avez forcément une feuille qui arrive brisée, mais on travaille sur de la feuille entière.
Est-ce que c'est une boisson qui a eu du succès tout de suite ?
Dans certaines régions, le succès va être immédiat. Dans certaines classes de la population, par exemple, si vous prenez la cour royale d'Angleterre, tout de suite, on a eu énormément de succès. Si on prend le cas de la France, il faudra attendre la fin du 18e pour qu'on commence à s'y intéresser et la fin du 19e pour qu'on commence véritablement à la consommer.
Saviez-vous que le thé a permis en Angleterre de lutter contre l'alcoolisme ? On va raconter toute l'histoire sur RTL.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique durant une demi-heure. Nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème. Et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France.
RTL, première radio de France.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est l'histoire du thé que l'on découvre dans la curiosité grâce à notre invité Arnaud Bachelin. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais il faut vraiment rentrer dans le détail. Vous nous avez dit que le thé et le succès du thé avaient à voir avec la bière. Donc c'est quoi l'idée ? C'est un moyen de lutter contre l'alcoolisme dans l'Angleterre ou le Royaume britannique, c'est ça ?
Exactement.
L'Empire britannique ?
Exactement. Il faut imaginer qu'à l'époque, on est dans l'Angleterre de Dickens. Donc Dickens n'exagère en rien la situation et la pauvreté.
La misère, la pauvreté et l'alcoolisme.
Exactement. Ouais. Et dans les années 1833, on va commencer à se rendre compte que c'est un véritable fléau pour l'Empire britannique qui a envie de briller. Et donc, on commence un mouvement, se lance dans le nord de l'Angleterre.
Il s'appelle comment ?
Le teetotalisme. Donc, c'est assez simple. L'idée, c'est de remplacer toute liqueur, et par là, il faut entendre toutes les boissons alcoolisées, par du thé.
Est-ce qu'il y a un groupe ? Est-ce qu'il y a un lobby du thé ? Est-ce qu'il y a, vous voyez, c'est pour lancer un mouvement comme celui-là, il faut du monde. Il faut des hommes ou des femmes influents.
Oui, alors tout commence par la religion. Et on commence avec les sermons du dimanche et le pasteur qui systématiquement va expliquer pourquoi il est très mal de boire et de consommer des liqueurs et pourquoi il est bien meilleur de consommer du thé ou de l'eau. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vraiment mettre en scène tout ça. C'est peut-être aussi le côté un peu anglo-saxon. On aime beaucoup tout médailler. Et bien, très vite, on va mettre des médailles aussi. Et c'est Sir Thomas Twinings qui va avoir cette grande idée. Il va lancer les morality tea qui vont récompenser en fait les personnes qui ont été abstinentes de bière pendant suffisamment longtemps et qui se sont mises au thé.
Qu'est-ce qu'on lui doit à Sir Thomas Twinings en plus de ses médailles de moralité ?
On leur doit énormément de choses aux Twinings. Ouais. Les Twinings ont été les premiers à consommer et surtout à diffuser au travers de leur café, de leur boutique, le thé en Angleterre. Ils vont mettre en place des sortes d'orphelinats, si vous voulez, pour toutes les personnes qui auront subi en fait les dommages de l'alcoolisme.
Alors évidemment, on va avoir tout le matériel qui va avec ce thé aussi. C'est à cette époque qu'on invente la tasse à moustache.
Oui. Ça
fonctionne comment ?
C'est quoi ça ?
C'est une question très pratique. La mode victorienne, et puis qui va aussi se développer en France, puisqu'on utilisait les tasses moustaches en France également, va être assez pragmatique. Ces messieurs ont la moustache trempée de thé quand ils boivent leur breuvage favori. Du coup, on va imaginer une tasse avec un tout petit rebord qui va permettre de sauvegarder la moustache et d'avoir du coup la moustache bien sèche et toujours, puisque comme on y mettait du talc pour la faire tenir, d'avoir toujours une moustache impeccable.
Arnaud Bachelin, vous avez un nœud.
Oui.
Et je vous regarde depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a du thé dans votre nœud.
Oui, exactement.
Un nœud papillon, oui, bien sûr.
Oui, alors en fait, c'est assez drôle. Je suis quelqu'un de pas mal infusé. et l'idée, en fait, c'est que j'essaie de démontrer systématiquement que le thé est trop chose qu'une boisson de grand-mère et qu'on peut en faire énormément de choses.
Mais ça existe, ça, dans le commerce ? Vous pouvez tremper votre nœud de cravate et vous faire un petit thé ? Ou non, ça, c'est votre folie à vous.
Quand le nœud papillon, ce nœud papillon, je l'ai imaginé, ça a été mon idée de dire j'ai du thé, je le mets dans ma tasse, il s'infuse. Et puis un jour, donc une designer italienne, Valentina Caramilla des ateliers Caravalle, me dit, mais écoute, on devrait le faire, mais on devrait teinter la soie avec du thé. Donc on fait des échantillonnages avec tous les thés qui arrivent dans ma maison de thé. Et ensuite, on remplit nos papillons avec le thé qui a été infusé.
Ça, c'est du raffinement. Ah, ouais. Bravo, on est bluffé, Arnaud Bachelin. Et on va voir que le thé, c'est aussi une boisson politique, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Toujours avec vous. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
L'histoire et l'art du thé dans la curiosité, votre nouveau 14-15 heures sur RTL avec Arnaud Bachelin, expert en thé. Vous avez votre propre boutique et salon de thé d'ailleurs à Paris où on peut acheter des nœuds papillons dans lesquels on trouve du thé que l'on peut infuser à toute heure, c'est génial. On racontait l'apogée du thé, l'arrivée, la diffusion du thé en Angleterre. Que dit Winston Churchill à propos du thé en pleine Seconde Guerre mondiale? On va comprendre son importance à ce thé.
Ce qu'il faut savoir, c'est que un peu plus de 100 ans se sont passés depuis le teetotalisme et donc tout le monde boit du thé en Angleterre à ce moment-là. Les soldats, eux, sont au fin fond des tranchées, on les appelle les Tommies. Ils sont au fin fond des tranchées, on leur envoie régulièrement en fait, des sortes de paquetages avec tout le nécessaire de survie. Et Winston Churchill, qui est un très très grand buveur de thé, notamment un très grand buveur de l'absinthe souchong à l'époque, va dire qu'en fait, plus que des munitions, les soldats ont besoin de thé. Alors, ça peut choquer quand on le sort de son contexte. Il faut juste imaginer que pour Winston Churchill, c'était une façon d'apporter du réconfort et c'était vraiment le thé du réconfort.
On en servait tout le temps, partout ?
Systématiquement, c'est-à-dire que vous partiez au front, sur le quai des gares, on vous servait du thé. Vous reveniez du front, on vous servait du thé. Et si vous voulez,
le thé fait de la politique même, on peut dire ça, puisque il y a une période de bombardement, il y en a eu plusieurs d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres, et on utilise l'image du thé pour faire quoi? De la propagande en quelque sorte.
Oui, pour refédérer et montrer qu'on est toujours debout et apporter du réconfort. Dès le lendemain des premiers bombardements londoniens, on va passer avec des sortes de petits tubes Citroën dans les rues totalement cabossées de Londres et distribuées à tout le monde du thé très chaud.
Et donc ça donne des photos qui sont étonnantes. On voit le thé sur les ruines, c'est ça?
C'est exactement ça. Vous allez avoir des personnes qui sont assises sur le décombre d'un immeuble, qui n'ont clairement plus rien et à qui on vient servir le thé. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, on ne le fait pas qu'à moitié. C'est-à-dire qu'on va véritablement servir le thé, tasse sous tasse, et on arrive avec une sorte de grand thermos pour servir le thé. Le Britannique reste toujours chic en toutes circonstances, je crois.
Arnaud Bachelin, vous avez votre propre boutique et salon de thé à Paris. Vous nous rappelez son nom et où ça se trouve?
Oui, c'est la maison Territoire. Elle se situe dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, 5 rue de Condé.
C'est quoi le thé que vous préférez servir?
Moi, je suis un grand, grand fan des houlongs du sud de la Chine, dans le Fujian. Ce sont des thés où les feuilles sont totalement entières et torsadées. Et
je ça, quel assez... goût
ça peut en avoir des tonnes, puisqu'on a énormément de terroirs et de saveurs différentes, mais ça va être entre le chocolat, l'abricot et le litchi.
Est-ce que les gens, quand ils poussent la porte de votre salon de thé, ils vous commandent de l'Earl Grey, ou du Darjeeling, ce qu'ils connaissent le plus?
Au début, les premières visites, les personnes vont vouloir prendre quelque chose qu'ils connaissent. Plus le temps va passer et plus ils vont comprendre que chez nous, ils peuvent essayer d'autres choses et puis découvrir véritablement le thé.
Vous nous donnez quelques conseils de préparation, je ne sais pas, tout bêtement là. Est-ce qu'il faut ébouillanter sa théière une première fois? À quelle température
Est-ce qu'il faut laver sa théière ou pas?
Voilà, quelle température de l'eau, etc. etc.
La seule chose déjà, c'est qu'il ne faut surtout pas nettoyer sa théière. Et si vous le faites, il faut simplement la rincer avec une eau très chaude. L'idéal encore ensuite, c'est d'avoir une théière par famille de thé. Mais ça complique les choses dans notre petite cuisine parisienne. Dans l'ensemble, il faut avoir une théière qui n'a conservé aucune autre odeur de thé, avoir une eau à bonne température en fonction de la famille de thé. Donc ça va varier entre 70 et 90 degrés, jamais d'eau bouillante. Et on ne va pas ébouillanter nos théières avec la vapeur de la bouilloire. C'est une vieille chose de vieille anglaise qui n'a aucune utilité.
Dans votre livre aussi, Arnaud Bachelin, on peut découvrir plein de desserts. Écoutez, il faut feuilleter et acheter votre livre pour les découvrir ou pousser la porte de votre boutique et salon de thé. On peut découvrir et savourer la tarte au potiron et thé d'Assam ou encore le cake au chocolat au thé fumée Russian Caravan. Quel délice!
C'est compliqué les recettes?
C'est très très simple. Il suffit juste de bien comprendre la feuille et de la suivre.
Et ben voilà.
Merci, Arnaud Bachelin. L'heure de vérité aux éditions Baker Street. À bientôt.
Merci.
Vous écoutez RTL.